11h30, Infomag avec Jean-François Baudin.
La fermeture du Nakamal, le City au centre-ville, la question de la réglementation et du contrôle de ces établissements de nouveau à la une. La saison des baleines et ses règles d'observation, reportage en mer dans ce journal pour profiter du spectacle. Dans la région, une ressortissante chinoise arrêtée à Canberra, elle est accusée d'espionnage pour le compte d'une puissance étrangère. En Israël, l'action de Benjamin Netanyahou est pointée du doigt. Le premier ministre israélien est pressé de tout mettre en œuvre pour libérer les derniers otages retenus par le Hamas. Une avancée dans la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Des chercheurs de Strasbourg viennent de mettre en évidence que la lumière pourrait permettre de freiner le développement de la maladie. Et puis en sport, la reprise de la saison de foot. L'OGC Nice jouera demain matin le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Comment rendre les professions de santé attractives en Nouvelle-Calédonie? Ce sera le sujet du magazine Citoyen que l'on retrouvera dès la fin de ce journal, Nicolas Legrand.
Oui, effectivement, il y a une véritable pénurie aujourd'hui des personnels de santé en Nouvelle-Calédonie. Résultat, les institutions s'affairent pour trouver des moyens pour faire venir des soignants ou alors pour les faire rester. On en parlera notamment avec les dispositifs de la province sud, mais aussi de l'État en termes de sécurité. Un magazine à retrouver tout à l'heure à l'issue de votre journal.
Le Nakamal, le City, situé à côté de Nouméa, fermé administrativement pour 2 mois. La décision du Haut Commissariat a été rendue publique hier après-midi. Le communiqué cite un nombre répété d'agressions, de rixes, de vols avec violence recensés près du lieu, sans aucun effort fourni par le propriétaire de l'établissement, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée. Elle rentre également dans une volonté plus globale du Haut Commissariat de rétablir la tranquillité dans l'espace public. Vous êtes parti, Nicolas, à la rencontre du gérant de Nakamal de Ducos ce matin et il souhaite combattre la mauvaise image véhiculée.
Oui, les réactions ont été nombreuses depuis cette fermeture administrative. Ce matin, par exemple, sur notre antenne dont vous avez un avis, plusieurs auditeurs ont critiqué ces bars à cava, évoquant les marchés noirs d'alcool qui se font parfois aux abords, voire du deal de cannabis, sans oublier les nuisances sonores que peuvent générer ces activités pour le voisinage. Sur Ducos, de plus en plus de Nakamal ouvrent dès le matin et les gérants reconnaissent que certains endroits sont malfamés et connus de tous. Rue Papin, ce Nakamal ouvre dès le matin et propose café et cava, mais l'ordre règne, une nécessité absolue pour conserver la clientèle.
Certains Nakamal rencontrent ce genre de problème, du cannabis et de l'alcool qui ne va pas du tout avec le milieu de Nakamal. Et c'est ce qui donne une image négative des Nakamal. Déjà à l'époque, quand le cava a commencé en Nouvelle-Calédonie, les gens pensaient beaucoup de mal des Nakamal. Aujourd'hui, même ceux qui ont critiqué font partie des buveurs maintenant et ont constaté que c'est un milieu assez sociable, assez relationnel. Et oui, on est obligé de faire la police, ça arrive à un moment, bien sûr. En ce qui me concerne, oui, j'ai tenu 4 Nakamal, j'y arrive. Ça peut devenir très, très violent. Donc, dès le départ, il faut être ferme. Il faut être ferme, il faut faire le tri et, pour le bien-être de ta clientèle.
Et derrière les ruines de Biscochoc, un regroupement de plusieurs Nakamal bien connus des amateurs de cava ouvre lui aussi dès le matin. Et les gérants affirment qu'ils travaillent main dans la main pour trier leur clientèle afin d'éviter tout débordement.
Si dans ton Nakamal, tu fais respecter les choses, tout se passe très bien. Là, on est plusieurs Nakamal, mais on se donne beaucoup la main aussi. On s'entraide entre nous et on se connaît très bien. Donc au final, on sait faire respecter les choses en temps normal dans les Nakamal. C'est un endroit où on est posé, calme. On n'est pas censé se prendre la tête ou quoi que ce soit. Donc c'est un endroit de détente en fait.
Et près du dépotoir, les lumières rouges se suivent aussi. Les travailleurs côtoient les consommateurs. La clientèle boit quelques sels de cava dès le matin, mais profite aussi d'un snack. Dans le labo, visible depuis la salle, les cuisinières s'affairent pour réaliser les barquettes pour le midi et affichent la volonté de montrer que l'hygiène est primordiale. Charlotte sur la tête et gants, la nourriture comme le cava font l'objet d'une attention toute particulière.
Ça a toujours été une mauvaise image du Nakamal. Et ça fait 20 ans que je fais ça. En plus, j'ai fait un snack. Donc ça, c'est, je suis arrivée sur le territoire, il n'y avait pas. Donc c'est moi qui ai créé ça en 2004. Donc qui veut dire que je l'ai développé et c'est devenu plus grand. Quand j'ai créé ça, j'étais obligée de faire venir la banque, la conseillère, pour venir regarder. Parce qu'apparemment, ils disent qu'il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, il n'y a rien. Mais en réalité, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. Un lieu de rencontre. De n'importe quelle ethnie, tout le monde se réunit. C'est l'apéro avant de passer à table, comme si on allait manger au restaurant. Donc les gens viennent prendre un sel, deux sels, et après ils se prennent une petite barquette, ils s'installent, ils mangent tranquille.
Et les Nakamals sont de plus en plus régulièrement contrôlés. Fin juin, par exemple, sur réquisition du procureur de la République, une opération de contrôle a été organisée par le COTAF, le Comité Opérationnel Territorial Antifraude, qui portait sur le contrôle des Nakamals et visait à vérifier le respect de la législation sur le travail, et notamment le travail dissimulé, ainsi que la protection des consommateurs. 5 Nakamals avaient été contrôlés, près de 80 personnes en tout, et les investigations avaient permis de révéler des infractions au Code du travail, justement, et la saisie de 19 grammes d'herbe de cannabis.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Après la fermeture administrative d'un Nakamal en raison de faits graves et répétés survenus à proximité de l'établissement, faut-il selon vous durcir la réglementation et le contrôle des Nakamals ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 89% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la multiplication des problèmes techniques, des retards et des annulations de vols risque de remettre en cause l'avenir de la compagnie Air Calédonie Internationale. Ils sont 11% à être d'un avis contraire. Justement, retour progressif à la normale chez Air Calin après de nombreuses perturbations liées à des pannes techniques sur les appareils de la flotte. Pannes qui ont notamment impacté les liaisons Nouméa-Singapour et Paris-Nouméa via Bangkok. Les avions ont finalement pu reprendre du service. La 330 Neo qui effectue la liaison depuis Paris arrivera ce soir à 23h30 à la Tontouta. Quant à la rotation Sydney-Nouméa d'aujourd'hui, elle a été reprogrammée en deux vols. L'un opéré ce matin, l'autre le sera ce soir. Les affaires judiciaires de David Guyenne créent des remous au sein de la CCI dont il est le président. Après sa garde à vue la semaine dernière, 11 élus de la Chambre qui étaient sur la liste d'opposition Alliance pour la relance aux dernières élections demandent une assemblée générale extraordinaire, Lionel Sabot.
Ces 11 élus pointent une crise de gouvernance à la CCI et ils lancent un appel à la responsabilité et à l'action en estimant que la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie traverse une crise sans précédent depuis la mise en garde à vue de son président. Tout en respectant la présomption d'innocence, ils tiennent à rappeler que la défense des intérêts des ressortissants de la Chambre doit demeurer la priorité absolue et que la CCINC se doit d'être irréprochable dans son fonctionnement, sa gouvernance et sa représentation. Ils indiquent que face à la gravité de la situation, ils ont demandé l'organisation d'une réunion d'urgence entre élus d'ici la fin de cette semaine. Pour eux, il est essentiel que la Chambre puisse se mobiliser rapidement et efficacement pour accompagner les ressortissants dans cette période particulièrement éprouvante. Ils ajoutent que dans le contexte actuel, marqué par des enjeux économiques et sociaux majeurs, la CCINC doit faire preuve de clarté, de responsabilité et d'exemplarité. Et il souligne qu'à l'approche de discussions stratégiques qui vont démarrer dès la semaine prochaine avec Claire Durieux, la représentante de la mission interministérielle, il est impératif que la Chambre soit représentée par une autorité pleinement légitime, capable de porter une parole forte et crédible. Ce communiqué est donc signé par 11 élus consulaires, Laurent Jandot, Jérôme Espalieux, Marie-Amélie Molia, Jacques Benex, Romain Babet, Philippe Edviller, Georges Sélefen, Atem Belladji, Dominique Pham, Jules Nkoeng et Alexandre Rodriguez.
Radio Rythme Bleu, 11h38.
La foire de Bourail fera son grand retour dans 10 jours dans le calendrier des festivités en Calédonie. Le rendez-vous est donné pour les 15, 16 et 17 août prochains à Téné. Ce matin, c'est Liva Iroy, le président du comité d'organisation, qui était notre invité. Pour organiser cette foire 2025, le comité a su écouter le public, nous a-t-il dit.
On a ramené vraiment au centre l'agriculture, l'artisanat, les concours bovins, les concours d'animaux. Parce que c'est ce qu'on vient à Bourail, c'est ce qu'on veut voir. C'est cette brousse généreuse qu'on veut voir. Et on a vraiment ramené tout ça. Savoir qu'aujourd'hui, via le contexte, il y a énormément de personnes qui sont revenues à la terre. Donc on a augmenté la surface des stands. Et aujourd'hui, on se retrouve, je pense, qu'on aura une très belle production, en tout cas en vente sur Téné. On a mis vraiment le paquet sur cette nouveauté et je pense qu'on a fait du neuf avec du vieux, quoi.
Une place importante sera donc faite pour les producteurs locaux qui viendront faire découvrir au grand public le fruit de leur travail. La foire de Bourail, c'est aussi bien évidemment toute une série de concours et d'animations avec cette année quelques nouveautés.
On a le concours de barbecue où j'invite encore les personnes à s'inscrire parce que à tous les gourmands, si vous savez faire la cuisine, si vous aimez le barbecue, venez le samedi à la foire de Bourail pour pouvoir participer à ce concours. On a le challenge Barrel Rice.
Donc ça, c'est nouveau, ça.
Ça, c'est nouveau, ça.
Expliquez-nous.
Ce sera au centre du site, devant les tribunes. l'animal contre la machine. Donc on a à peu près 70 cavaliers et une quarantaine de quads et de motos, et à l'intérieur avec aussi des surprises de nouveaux pilotes et de grands stockmen.
Pendant 3 jours, le site de Tenay sera un véritable lieu de vie où l'on va échanger, partager, mais aussi après l'annulation de 2024, se retrouver, car la foire de Bouraille reste une véritable vitrine, nous a confié Livaï Roy.
La voie de Bouraille, c'est 20 000 visiteurs. C'est une façon aussi de mettre le consommateur en face du producteur, de rencontrer son producteur. D'ailleurs, nous, on dit une vitrine parce que, d'après les études, ça retombe. On a 680 millions de retombées pour le pays. Aujourd'hui, notamment l'environnement autour de la foire de Bouraille, les restos, les hôtels, tout ça sans plein, les gîtes sans plein. Donc, elle est importante pour toute la Nouvelle-Calédonie, en tout cas. Et quand je dis vitrine, c'est qu'on a besoin, nous, de mettre un petit peu cette brousse silencieuse en avant parce qu'on l'entend rarement et aujourd'hui, c'est une façon de continuer, en tout cas depuis 47 ans, à les mettre en avant.
Livaï Roy, le président du comité d'organisation de la foire de Bouraille, qui était donc ce matin notre invité. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast audio et vidéo sur notre site internet. À 11h41, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, nous partirons en mer pour l'observation des baleines.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Votre tranquillité d'esprit, avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
La foire de Bouraille est de retour les 15, 16 et 17 août. Faites votre carburant dans les stations Shell et Pacifique pour tenter de gagner un Toyota Hilux spécial foire de Bouraille. Urne et tirage au sort à la foire le 17 août. N'oubliez pas de remplir votre bulletin de participation.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie. Les baleines ont fait leur grand retour dans les eaux calédoniennes, comme chaque année entre juillet et septembre. Ces baleines à bosse viennent dans le lagon pour se reproduire. La population de baleines est suivie de près par les scientifiques du territoire, mais aussi par les plaisanciers, qui doivent toutefois respecter des règles d'observation très strictes. Le reportage en mer de Charlotte Coulson.
Jusqu'à 4000 personnes assistent au spectacle chaque année. Des Calédoniens, des touristes qui viennent parfois de loin pour observer les baleines à bosse. Leur cycle est bien connu. Au moment de la reproduction, ces mammifères marins choisissent les eaux chaudes de la Calédonie pour procréer. Environ 1400 cétacés visitent notre lagon à cette période de l'année. Un spectacle rare à voir et pourtant, leur migration n'est pas une attraction. Pour ne pas déranger le cycle des baleines à bosse, les règles d'observation sont très claires. Elles ont été écrites dans une charte de bonne conduite en 2008 par l'association Calédonie Charter, puis inscrite dans le code de l'environnement de la province sud en 2019. Gilles connaît bien cette charte puisqu'il est l'un de ses fondateurs. Il accompagne depuis plus de 20 ans maintenant les observateurs de baleines à bord de son catamaran, le Kazé.
On a eu besoin de mettre cette charte en place puisque auparavant on était peu nombreux. Moi j'ai commencé en 2002 et on était 4 opérateurs en gros, et ensuite plusieurs opérateurs sont arrivés et il y a eu un besoin d'organisation car on se retrouvait trop nombreux sur le dos d'une baleine et donc c'était pas bien pour la baleine et donc son environnement. Et donc elle va parler de différents points, comme on ne va pas séparer un baleineau de sa maman, mais elle définit surtout une distance d'approche et une durée d'observation. Pour ce qui est de la durée d'observation, on a défini 1 heure par bateau. Et là aussi, on a défini une durée de 3 heures en temps cumulé dans la journée. La même baleine, le même groupe de baleines ne sera pas observé plus de 3 heures par l'ensemble des bateaux qu'il y a sur le plan d'eau pour éviter une perturbation.
La distance à respecter est quant à elle de 100 mètres et pas plus de 4 bateaux dans un rayon de 300 mètres. Ces règles doivent être expliquées avant chaque sortie en mer aux visiteurs du lagon. Un briefing de 30 minutes avant de prendre le large. Une fois les règles bien comprises par le public, place à l'observation. Jumelle en main, il faut être à l'affût du moindre signe de présence des baleines.
Maintenant, ça va être à vous de travailler. J'ai juste un seul doute sur la personne qui est allongée et qui regarde vers le ciel. Les baleines ne sont pas dans les étoiles. Allez, bonne recherche.
C'est un peu à quoi ça ressemble, comment on va les trouver.
Oui, j'ai écouté. On peut voir les souffles, on peut voir des nageoires qui sortent et on peut voir des grosses traces blanches, ce qui signifierait qu'une baleine a sauté.
Tu vois le morceau un peu plus blanc dans la colline là-bas?
Oui, au fond, oui, tu vois.
Eh ben, il est un petit peu sur la droite.
D'accord.
De temps en temps, on la voit.
Ah,
voilà.
Ah, voilà.
Ah oui, c'est... Ah, d'accord. Ah oui, c'est gros. Hein. C'était trop bien, on a vu deux baleines, elles étaient énormes, elles n'arrêtaient pas de donner des coups de queue, c'était trop bien. Puis à un moment donné, elle a levé la queue, puis elle a fait la fin en ralenti, c'était trop beau.
Pour moi, c'est une première, c'est vraiment une expérience magnifique.
Un spectacle inoubliable et un tourisme responsable pour que les baleines à bosse puissent se reproduire sereinement dans les eaux calédoniennes. Plaisanciers et usagers du lagon, pensez à consulter la charte d'observation des cétacés sur le site de la province sud.
Le reportage de Charlotte Coulson. Parlons maintenant un peu de Noël. Et oui, déjà, avec le retour du concours des contes de Noël organisé par l'Alliance Champlain, la langue française à l'honneur avec cette 9e édition proposée à l'occasion du 40e anniversaire de l'association, un conte, une poésie ou encore une nouvelle. Il s'agit d'écrire un texte dans le contexte océanien sur un format A4 pour participer. Écoutez le président de l'Alliance Champlain, Daniel Mirou.
Ce concours qu'on appelle concours du conte de Noël consiste à rédiger un texte, donc inventé, imaginaire, qui doit être composé sur une feuille de type A4, pas plus long, des 1000 mots au maximum, et qui comprend pas d'anglicisme et qui pourrait comprendre par contre plusieurs mots des 10 mots de l'année. Les 10 mots de l'année sont biome, butiné, canopé, conséquent, débroussé, empreinte, glané, palmeré, solaire et vivant. En fait, ces 10 mots tournent autour de la thématique de l'environnement. Ça peut être des petites nouvelles, des petites histoires, ça peut être des poèmes. Disons que le choix est large et peut être très diversifié. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ce soit au-delà d'une page. Donc ça permet comme ça de pouvoir canaliser, je dirais, les enthousiasmes, les ardeurs de tout un chacun.
Et si vous voulez vous inscrire et participer à ce concours, vous pouvez envoyer vos textes par format PDF à alliance.champlain@lagoon.nc. alliance.champlain@lagoon.nc, mais aussi par la poste. L'actualité dans la région avec la chasse aux espions en Australie. Une ressortissante chinoise qui bénéficie du statut de résident permanent a été arrêtée par la police fédérale à Canberra. Elle est accusée d'espionnage pour le compte d'une puissance étrangère, en l'occurrence la Chine, Jean-Pierre Zajac.
Depuis 3 ans, la dite personne espionnait pour le compte d'une agence du gouvernement chinois qu'il avait chargé de suivre de très près un groupe bouddhiste dont les activités sont interdites dans l'Empire du Milieu et dont certains dirigeants ont trouvé refuge en Australie. Une perquisition effectuée à son domicile a permis aux agents de la police fédérale de découvrir certains objets l'incriminant directement. La femme a comparu hier devant un tribunal de Canberra qu'il a accusé d'ingérence au profit d'une puissance étrangère, un crime passible de 15 ans de réclusion criminelle. Impliqué lui aussi dans l'enquête, le directeur du service de contre-espionnage ASIO, Mark Burgess, a été catégorique. C'est une atteinte effroyable aux valeurs, aux libertés et à la souveraineté australienne, a-t-il dit. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et on va se retrouver après une nouvelle pause dans ce journal pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Votre enfant a grandi, il devient trop grand pour la crèche ou pour la nounou, mais il n'a pas encore l'âge pour la maternelle. Éducare a la solution. Éducare, une prématernelle idéale pour l'épanouissement et la sécurité de votre enfant. Avec son jardin de 500 m², un grand nombre d'activités, une équipe professionnelle et diplômée. Appelez le 25 96 01 ou sur Facebook Éducare NC.
Votre 4x4 demande de l'aventure? Chez Calais Pneus, choisissez BF Goodrich, la référence des pneus 4x4 tout-terrain en Calédonie. Jusqu'au 23 août, moins 20% sur tous les pneus 4x4 BF Goodrich. Changez, roulez, explorez avec Calais Pneus PK4 et Conné. Visitez notre page Facebook.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité à l'étranger, on retrouve Jean-François Baudin.
Et le Premier ministre israélien sous pression, les vidéos de 2 otages israéliens détenus par le Hamas depuis le 7 octobre 2023 apparaissent affaiblis et amaigris. Ils ont suscité beaucoup d'émotions. Les Israéliens pressent Benjamin Netanyahou pour qu'il mette tout en œuvre pour obtenir leur libération. Et ce dernier annonce une éventuelle intensification des combats dans la bande de Gaza. Une option qui est loin de faire l'unanimité. Frédéric Simon pour Europe 1.
Il est parvenu à la conclusion que le Hamas ne veut pas d'accord. Par conséquent, a-t-il affirmé, pour libérer les otages, il faut vaincre militairement l'organisation terroriste. Mais cette perspective d'une intensification de l'offensive contre le Hamas est loin de faire l'unanimité. Les proches des otages et avec eux de très nombreux Israéliens craignent qu'elle ne mette en danger les quelques 20 captifs considérés comme étant encore en vie. La haute hiérarchie militaire exprime elle-même certaines réserves. Le chef d'état-major de Tsahal serait réticent à l'éventualité d'une occupation militaire de l'ensemble du territoire gazaoui. Plusieurs anciens responsables haut placés de l'armée, des services de sécurité et des agences de renseignement sont allés jusqu'à adresser une lettre à Donald Trump demandant au président américain de faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il accepte de mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza. Seul moyen, selon eux, d'obtenir la libération des otages. Le monde de la culture se mobilise lui aussi. Une pétition a recueilli des centaines de signatures. Sa formulation a suscité une vive polémique puisqu'il y est question de crimes de guerre dont se serait rendu coupable l'armée. En grande majorité, l'opinion publique israélienne rejette ce genre d'accusation, mais elle reste majoritairement favorable à l'arrêt des opérations militaires s'il permet toutefois le retour de tous les otages détenus par les groupes terroristes.
Toujours à l'étranger, en bref, il y a 5 ans, jour pour jour, une terrible explosion secouait le port de Beyrouth. C'est le souffle dû à l'explosion d'un stock de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium servant dans la fabrication des engrais qui a causé le drame. 220 personnes ont été tuées. Il y a eu plus de 6500 blessés et des dégâts considérables. Justice sera faite, a rappelé le président libanais à l'occasion de cet anniversaire, alors que l'enquête sur son origine piétine. En métropole, un peu de répit pour le groupe Altice, maison mère de SFR. Il n'est pas encore sauvé, mais le tribunal des activités économiques a approuvé son plan de restructuration, ce qui est un soulagement évidemment pour ses dirigeants, Mathias Lang.
Patrick Drahi, le patron d'Altice, peut souffler après cette décision. La dette de son groupe culmine à 24 milliards d'euros. Alors, pour convaincre les juges, l'homme d'affaires a dû en amont négocier avec ses créanciers. Un accord noué il y a quelques mois prévoit l'effacement de plus de 8,5 milliards d'euros de dette en échange d'un abandon de 45% du capital aux créanciers. C'est ce plan que le tribunal a donc approuvé. Mais les juges n'ont pour autant pas suivi les réquisitions du ministère public sur l'exclusion de certaines filiales d'Altice de ce plan, dont SFR. Olivier Lelong, délégué syndical central de SFR pour la CFDT, le regrette.
SFR fait quasiment 10 milliards de chiffre d'affaires par an, avec 30% de marge. Et donc, SFR, si elle n'avait pas à supporter la dette du groupe Altice, serait très profitable. Mais le groupe Altice, depuis 10 ans, n'a rien fait pour se désendetter.
Le syndicat parle également d'un manque de garantie sur l'emploi. 6 000 salariés au total chez SFR et s'inquiète par ailleurs d'une possible vente à l'avenir. La CFDT annonce ainsi son intention de faire appel de la décision du tribunal. D'autres organisations pourraient suivre.
Sans parler d'espoir de traitement, c'est une avancée notable dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Des chercheurs de Strasbourg viennent en effet de mettre en évidence que la lumière pourrait permettre de freiner le développement de la maladie. Le reportage de Mélina Fachin.
Mathieu Aguilera, jeune docteur en neurosciences, a mené cette étude sur 40 souris, dont la moitié atteinte par la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. En s'inspirant de travaux déjà effectués par des chercheurs du MIT de Boston, il a simplement installé face à la cage des rongeurs un bandeau LED qui clignote à la vitesse précise de 40 Hz.
Pendant 15 jours, une heure par jour, on les met dans la salle, dans le noir, avec juste la lumière à 40 Hz qui clignote. Et du coup, on a remarqué qu'elles avaient de nouveau des performances cognitives comme les souris non pathologiques.
Et elles n'avaient plus de problèmes de mémoire.
Romain Goutani, directeur de recherche au CNRS, a co-dirigé cette étude.
Même un mois après, elles ont toujours plus de troubles. Honnêtement, moi, j'y croyais pas trop. Donc, c'est quand même assez cool, parce que c'est non-invasif. Ça coûte pas grand-chose. C'est un ruban de LED qui clignote à 40 Hz pendant une heure par jour. C'est fantastique.
Mais quant à savoir si cela peut être efficace sur l'homme, il préfère rester prudent.
A priori, ça pourrait marcher. C'est compliqué de parler d'espoir, parce que les espoirs, c'est souvent déçu. On espère que ça ouvrira des pistes.
Pour cela, de nouvelles recherches vont être menées, avec peut-être la possibilité un jour de tester ce traitement lumineux sur de vrais patients. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Et il est 11h54, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, c'est l'actualité sportive avec Lionel Sabot et ensuite, ce sera le magazine citoyen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Les 26 et 27 septembre, cap sur le centre culturel Tchibaou pour un week-end exceptionnel 100% musique avec les Francofolies de Nouvelle-Calédonie et Jazz à Nouméa. Ne ratez pas le rendez-vous musical de l'année. Deluxe, Fahad Afridi et beaucoup d'autres. Info et billetterie sur ticket.nc. Un événement en partenariat avec la Province Sud, la ville de Nouméa, la MAC, le gouvernement, la GBNC, la BCI.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. Tout le sport en trois lettres, RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
On va commencer cette page sport avec le football, Lionel Sabot, parce que la saison européenne de l'OGC Nice va s'ouvrir jeudi matin pour nous.
Oui, les Aiglons qui feront leur entrée en Ligue des Champions ce jeudi pour le match aller du troisième tour préliminaire de la compétition. L'OGC Nice accueillera le Benfica de Lisbonne. Le match retour se jouera la semaine suivante au Portugal. Nice connaît désormais son programme complet pour tenter de rallier la Ligue des Champions 2025-2026. En cas de qualification contre les récents vainqueurs de la Supercoupe du Portugal, les Niçois devront se défaire en barrage soit des Néerlandais du Feyenoord Rotterdam, soit des Turcs de Fenerbahçe. C'est le club qui est entraîné par José Mourinho, une vieille connaissance. Un programme qui s'apparente à un parcours du combattant pour les Niçois face à des représentants habitués aux Coupes européennes. Toutefois, les Aiglons ont réalisé une pré-saison plutôt positive avec notamment 5 victoires, dont une, devinez contre qui ? Le Feyenoord de Rotterdam.
Allez, en basket maintenant, on va noter que l'équipe de France a disputé ce matin son premier match de préparation à l'Euro qui débutera le 27 août prochain. Et les hommes de Frédéric Fautou se sont imposés 80-75 sur le Monténégro. Les vice-champions olympiques poursuivront leur préparation samedi pour nous face à la Grande-Bretagne avant une double confrontation face à l'Espagne. Ce sera les 15 et 17 août prochains. Et puis quelques mots de tennis, Lionel, avec la suite des tournois ATP et WTA du Canada.
Oui, les dames sont à Montréal et la japonaise Naomi Osaka, avec ce numéro 1 mondial qui est aujourd'hui 49e au classement WTA, a déroulé face à la Lettonne Sevastova. Score final 6-6-0. Elle s'est qualifiée pour les quarts de finale et retrouvera l'Ukrainienne Svitolina. De son côté, et la Danoise Clara Tosson a créé la surprise en éliminant la numéro 3 mondiale, Iga Swiatek, 7-6 et 6-3, après l'Américaine Coco Gauff, sa compatriote Jessica Peluga et la Russe Andreeva. C'est donc la quatrième tête de série qui quitte prématurément le tournoi. Et puis les messieurs, eux,
trop
sont...
Trop tôt, quoi.
Oui, trop tôt, c'est ça, prématurément. Les messieurs, eux, sont à Toronto pour un Masters 1000. On retiendra que l'Australien Alex de Minaur s'est qualifié pour les quarts de finale en battant en 3-7, 6-2, 4-6 et 6-4 l'Américain Frances Tiafoe.
Et puis après les très belles performances de Maxime Grousset au championnat du monde de natation et celle de Félicé Vaillasosaïa au championnat de France d'athlétisme, le gouvernement adresse par voie de communiqué ses félicitations aux deux athlètes qui portent fièrement les couleurs du territoire au plus haut niveau du sport national et international. Rappelons qu'au championnat du monde de natation, Maxime Grousset a notamment remporté l'or sur le 50 mètres et le 100 mètres papillon. Félicé Vaillasosaïa a lui été sacré champion de France au javelot avec un jet à 80 mètres 20. Voilà, il est 11h50. 58, c'est la fin de ce journal.